Émilie l'a dit, ce matin nous avons un culte vision où nous voulons réfléchir à l'argent. Et j'annonce tout de suite la couleur, puisque il s'agit de dons dont nous allons parler ce matin. J'aimerais, comme base de ce temps d'écoute de la parole de Dieu, lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 5, du verset 5 jusqu'au verset 9. Donc c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe, hein, vous êtes un peu familier avec cette église, puisqu'on étudie régulièrement la première lettre aux Corinthiens. Là, c'est une autre lettre, dans laquelle Paul écrit « J'ai donc estimé nécessaire d'encourager les frères à me devancer chez vous pour s'occuper de la largesse que vous avez promise, afin qu'elle soit prête comme une largesse et non comme un geste d'avarice. En effet, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, ainsi qu'il a été écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice demeure pour toujours. » Voilà le texte que nous allons, dont nous allons partir ce matin, avec un verset que vous avez peut-être entendu déjà, le verset 7, hein, qui est cité régulièrement dans les églises, cette invitation à donner librement et sans contrainte. Librement et sans contrainte, ça fait bien de dire que le don doit être libre et sans contrainte. Mais il ne faut pas mal le comprendre. Il ne s'agit pas de le jeter sur ce sujet de l'argent et du don un voile pudique. C'est privé, on n'en parle pas. D'ailleurs, Paul en parle largement, puisque dans cette épître aux Corinthiens, les chapitres 8 et 9 sont entièrement destinés, traitent entièrement de ce sujet, du don. Et voilà, on aurait pu lire les deux chapitres, 8 et 9. J'ai préféré couper, parce que c'est un petit peu long. Mais il y a quand même besoin de quelques explications, parce que quand j'ai commencé au verset 5, on voit qu'on est au milieu d'un discours. J'ai donc estimé nécessaire d'encourager les frères à me devancer chez vous pour s'occuper de la largesse que vous avez promise. Alors, ce qui se passe, c'est que Paul coordonne une collecte faite pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. C'est quelque chose qui l'a quand même beaucoup occupé, puisqu'on en voit des allusions dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans Galates, dans Romains. Et puis, quand il est arrêté, qu'il doit se justifier devant le gouverneur Félix et qu'il raconte sa vie, il le mentionne aussi. Je suis revenu pour aider. Donc c'est vraiment, on connaît son activité de planteur d'église et de formateur, mais il s'est aussi occupé des pauvres et des pauvres de Jérusalem. Et là, il rappelle aux Corinthiens la largesse qu'ils ont promise. En fait, il semblerait, quand on lit le chapitre 8, que devant cette situation difficile des chrétiens de Jérusalem, où il y avait plusieurs qui étaient là, qui étaient pauvres, qui étaient dans l'embarras, il semble qu'il y ait eu un élan fraternel de compassion et que les Corinthiens ont été, quelque part, les meneurs, les premiers à se positionner Oui, il faut donner, on va donner. Seulement, les Corinthiens traînent un peu. Leurs intentions étaient bonnes, leurs intentions ont motivé toute la Grèce, hein, la Macédoine au nord, l'Aquilie au sud. Tout le monde est motivé, tout le monde a préparé, sauf les Corinthiens qui traînent encore. Et donc dans le chapitre 8, Paul les encourage à mettre en œuvre ce qu'ils ont promis. Des engagements, des promesses qui ont suscité des espoirs, il faut que ça suive. Donc il passe pas mal de temps à les motiver pour donner. Et là, apparemment, c'est ce qu'on a lu dans le verset 5, il a envoyé de ses collaborateurs pour organiser la collecte, pour que quand lui passera plus tard en route pour Jérusalem, il n'ait plus qu'à prendre ce qui a été collecté pour l'emmener. Donc pour organiser les choses. C'est intéressant, en travaillant ce texte, j'ai pas pu empêcher de voir des similitudes avec la situation que nous connaissons actuellement, où nous nous sommes engagés dans un projet d'église à vouloir nous consacrer à faire des disciples. Et nous nous sommes donné des priorités concrètes, et l'une d'entre elles, c'est un bâtiment pour accueillir plus largement, pour accueillir mieux. Et ce volet de notre projet d'église comprend un défi financier important. On a un défi financier en face de nous. Et bon, bah, on n'est pas comme les Corinthiens où ça fait plusieurs années qu'on a promis et qu'il n'y a rien qui vient. Mais ça vaut le coup de se laisser interpeller. On s'est engagé et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je note que l'argent, le don, c'est un sujet sur lequel on est observé. Le monde nous observe. Quand je parle de l'Église avec des gens que je rencontre et qui sont curieux, on me demande régulièrement comment est-ce qu'on est financé, qui paie le pasteur, les locaux, etc. Et c'est toujours un témoignage de dire que ce sont les croyants qui donnent librement et qui nous permettent d'avoir nos activités. Ce sont les croyants qui, ensemble, se donnent les moyens de cette action. C'est un beau témoignage. Et je disais, notre monde est sensible à ça. Je ne sais pas si vous regardez si vous vous intéressez à l'actualité des religions. En ce moment, on construit beaucoup de mosquées dans plusieurs villes en France. Il y a trois projets à Clermont-Ferrand. Et souvent, dans l'article de presse, on dit qui c'est qui finance. C'est important, c'est étonnant de savoir que les croyants financent leur lieu de culte. C'est quelque chose qui étonne nos contemporains. C'est dans notre monde, la générosité, c'est peu courant, à tel point que les organismes qui ont besoin d'argent insistent avec force sur le fait qu'on peut avoir des déductions d'impôts. La meilleure motivation pour donner, c'est que je paierai moins d'impôts. Le don, c'est quelque chose qui peut différencier le croyant. Et Paul dit même que c'est une source de fierté. Il le dit au verset 24 du chapitre 8. « Prouvez-leur que nous avions raison de montrer fiers de vous, fiers de votre générosité. » Donnez. Mais concrètement, comment faire? Comment faire pour passer à la pratique? Comment faire pour passer du projet d'église qu'on vote avec enthousiasme à ce temps où je concrétise ça chez moi? C'est donc de ça que nous allons parler. Et pour être honnête, le plan de ce qui suit, je l'ai piqué à un journaliste et auteur chrétien. Qui se nomme Antoine Nuis, et en lisant ce qu'il avait écrit, j'ai trouvé ça tellement clair que je me suis dit que j'allais utiliser le même plan. Si la commande veut bien. Non, elle veut pas. On peut avoir la diapo suivante. Merci. Voilà. Donner, quatre questions. Pourquoi donner? Combien donner? Comment? Et à qui? Pourquoi donner d'abord? Pourquoi donner? Je pense déjà que donner, c'est un moyen concret de confesser ce que nous croyons. Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter de ce que nous aurons. Il dit, « Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ?» C'est ce que nous croyons, que nous avons plus de valeur que les oiseaux et que comme Dieu les nourrit, il nous nourrit nous aussi, il nous donne ce que nous avons. Et donner, c'est un moyen de le confesser, de montrer que oui, je le crois, mais pas seulement intellectuellement, avec mon portefeuille également. C'est ce que rappelle Paul dans les versets 8 et 9. Il rappelle que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin et il dit même qu'il nous donne non pas seulement le nécessaire, mais qu'il nous donne en plus de quoi donner à notre tour. Et il nous donne de quoi donner parce que sa bonté envers les pauvres, il la met en œuvre à travers ses enfants. Il compte sur ses enfants pour prendre soin des pauvres. Nous croyons que nous n'avons besoin de rien, que Dieu s'occupe de nous, vraiment. Donner, c'est un moyen de le montrer. Montrer que nous ne sommes pas attachés avec inquiétude à nos biens, mais que nous sommes suffisamment libres pour nous en séparer. Donner comme une confession, donc, mais ça va même plus loin que ça. Donner, c'est utile. Utile pour nous et utile pour les autres. Utile pour les autres, c'est assez évident. Ceux à qui nous donnons récupèrent un bénéfice. Il n'y a pas besoin de grandes explications. C'est important de se souvenir que l'injustice dans le monde qui est présente en tout temps, que nous voyons à la télé qui nous insurge sur Facebook. L'injustice ne vient pas de Dieu, mais des hommes. En donnant, nous luttons pour un monde plus juste, à une petite échelle, mais c'est là-dedans que nous nous inscrivons, de façon concrète. Utile pour les autres, mais utile également pour nous qui donnons. On dit que l'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. C'est un bon serviteur parce qu'il nous permet de faire des choses formidables. L'argent permet le développement économique, il facilite les transactions, il facilite notre action, il permet de faire circuler la richesse. Mais c'est un très mauvais maître, parce que quand on se soumet à lui, qu'on veut travailler pour lui, eh bien alors on n'en a jamais assez. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'eau et l'argent? C'est que l'eau, quand on a bu, on n'a plus soif. Je lisais qu'il y avait une étude qui avait été faite sur la terre entière, auprès de pays riches comme des pays pauvres, et à tous, on demandait « Est-ce que vous gagnez assez ?» Et la réponse est assez unanime, partout. Tout le monde estime qu'il a besoin de 20% de plus. Ceux qui gagnent peu aimeraient avoir 20% de plus. Ceux qui gagnent beaucoup aimeraient avoir 20% de plus. C'est un peu une constante sur la Terre. Mais chaque fois qu'on donne, on se détache de cette quête sans fin. On pose un acte de liberté, montrer que je suis libre par rapport à l'argent, que je suis suffisamment libre pour donner quelque chose qui ne me reviendra pas. L'argent n'a pas un contrôle total sur moi. C'est un exercice donc qui nous permet de nous libérer. C'est aussi quelque chose qui nous permet de nous enrichir. Je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 6. « Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème largement moissonnera largement. » C'est intéressant ça. Comment est-ce que Paul peut comparer celui qui donne à un paysan qui sème ? Quand je sème, c'est avec l'espoir de voir la semence se transformer en une plante dont je pourrais jouir. En ce moment, c'est le printemps, c'est le bon moment pour planter dans le jardin ou sur mon balcon des graines qui me rapporteront dans quelques semaines des fleurs, des herbes aromatiques, des légumes, que sais-je. Ça, on connaît. Mais si je donne, qu'est-ce que je récupère ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça produit ? La réponse, on peut la trouver du côté de Jésus. Dans le sermon sur la montagne, il avait dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et vous les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces versets parlent de l'argent, de richesses. Et plutôt que de les garder, de les amasser pour chercher à se constituer des trésors sur la terre, Jésus invite à s'en servir et s'en servir, les donner, amasse des trésors dans le ciel. Donner, c'est capitaliser dans le ciel. On raconte qu'au XVe siècle, il y avait un roi d'Espagne qui avait un ministre des finances juif, fort habile, et dont la réussite rendait jaloux. Et avec cette jalousie, on commençait à parler derrière son dos. Il y avait des propos antisémites qui commençaient à circuler. Et un jour, les conseillers disent au roi que son ministre des finances s'enrichit. Alors le roi demande à son ministre des Finances de lui rendre compte de ses biens. 3 jours plus tard, le fonctionnaire vient et il indique une somme pas très élevée. Le roi lui dit « Mais tu te moques de moi. Rien que ta maison, je sais qu'elle vaut plus et tu as encore d'autres possessions. » Le fonctionnaire répond « Cette somme correspond à ce que j'ai donné depuis que je suis ministre. Car seul ça m'appartient. Tous mes autres biens, tu peux me les confisquer demain. Mes dons, jamais on ne pourra me les retirer. Ce sont mes seules vraies richesses. » Jésus nous invite à nous constituer un trésor dans le ciel. Demandons-nous quelles sont nos vraies richesses. Vouloir donner, c'est bien. Mais combien donner ? Quand on passe à la pratique, c'est une question qui vient rapidement. Librement et sans contrainte, nous dit notre texte. J'ai vu un jésuite qui proposait l'exercice suivant. il proposait de prendre une feuille de papier et de dessus écrire, ça tombe bien, c'est l'époque où on remplit nos déclarations, où il y a les impôts, d'écrire dessus, j'ai reçu la somme de tant d'euros cette année. J'ai en réserve la somme de tant d'euros, mon capital est évalué à tant d'euros. Je donne tant d'euros aux églises et aux œuvres. Faire le bilan comme ça, écrire sur une feuille, l'avoir devant nous. Et en dessous, écrire « Je suis chrétien ». Signez, si vous l'osez. Si vous êtes à l'aise avec ce qui est écrit, super, c'est formidable, continuez. Si vous êtes un peu mal à l'aise, alors on peut poursuivre et avoir quelques pistes de réflexion. Combien donner ? La Bible parle beaucoup de la dîme. La dîme, 10%, un dixième des revenus. On le trouve dans l'Ancien Testament, c'est ce que Abraham donne à Melchizédek, ce que Jacob a promis de donner à Dieu. Et du coup, la loi dans le Lévitique prescrit de donner la dîme, et puis elle prescrit comment le faire, quand, etc. C'est très codifié. Mais le Nouveau Testament n'est pas aussi précis. Loin de là. Au contraire, je dirais même, puisque Paul nous invite à donner librement et sans contrainte. La dîme, donc, ce n'est pas une obligation chrétienne. Jésus n'a pas dit à la fin de Matthieu, après avoir dit de faire des nations de toutes les disciples, et au fait, donner la dîme à l'Église. Mais quand même, si c'est là dans l'Ancien Testament, c'est quand même une base raisonnable, une indication intéressante qu'il faut prendre en compte. Un dixième, c'est suffisamment important pour être significatif. Ce n'est pas quelque chose dont on se sépare et qu'on ne voit pas passer. Imaginez 10% d'augmentation sur votre revenu, vous le voyez. 10% de diminution, vous le voyez également. Donc, c'est suffisamment important pour être significatif, sans être trop gros, pour amputer votre budget et vous empêcher de vivre. La dîme, c'est un défi de vivre avec 90% de notre revenu, défi de nous attendre à Dieu et de vérifier auprès de lui que rien ne nous manquera. Si ce défi vous semble trop difficile, trop lointain, on peut regarder autrement. Dans Genèse, lorsque Jacob rencontre Dieu, il fait le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas. Il y a des commentateurs qui sont interpellés par cette phrase. S'il me fournit le manger et le vêtir. Et du coup, qui formule cette proposition, eh bien, au lieu de donner la dîme de ses revenus, mettre de côté le nécessaire pour manger et me vêtir, et puis donner la dîme du reste. Concrètement, en France où on a le salaire minimum, le SMIC, eh bien, on peut prendre son salaire, soustraire le SMIC et donner 10% de ce qui est en plus. C'est une piste de réflexion. À l'inverse, on peut ne pas s'arrêter au dixième. On peut donner plus que 10% de ses revenus. Je me souviens qu'à l'époque où Diane et moi travaillions tous les deux à plein temps et que nous n'avions pas encore d'enfants, c'est vraiment une époque où nous étions plus à l'aise financièrement et nous avons eu le privilège de pouvoir donner plus que 10% de nos revenus. Ça a été un défi d'augmenter ce que nous donnions. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je regarde cet épisode avec joie, avec fierté. Je suis content que nous ayons pu donner plus et constater que rien ne nous manquait. Dans ce que j'ai lu, j'ai même vu un auteur, Craig Bloomberg, qui propose un calcul un peu compliqué. Il parle de la dîme sur le salaire de base et qu'à chaque fois que je suis augmenté, sur la tranche supplémentaire, je vais donner plus que 10%. Ce qu'il propose, c'est que ben voilà, si je gagne 18 000 euros par an, je donne 10% de ça, 1 800 euros sur l'année. Quand je gagnerai 19 000 euros, eh bien, je continuerai à donner 10% de 18 000. Et sur les 1 000 euros supplémentaires, je donnerai 15%. Au lieu de donner 1 900 euros, je donnerai 1950. Quand je gagnerai 20 000 euros par an, je donnerai 10% sur les 18 000, 15% sur les 1 000, 20% sur les 1 000 suivants. Et comme ça, à chaque fois que je suis augmenté, je donne de plus en plus. C'est quelque chose qui interpelle et auquel on peut s'interroger. L'important, c'est d'être capable de signer notre papier sans gêne, d'être heureux de ce que nous donnons et de trouver que nous sommes en phase entre ce que nous croyons, ce que nous voulons être, je suis chrétien, et ce que nous donnons. On a regardé combien donner. C'est intéressant de regarder comment donner. La Bible donne une indication très forte sur comment donner. Ce sont les prémices. On retrouve par exemple en Deutéronome 26, au moment d'entrer dans le pays, lorsque vous serez arrivé dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme patrimoine, lorsque vous aurez pris en possession et que vous y serez installé, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récolté dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, et il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour établir sa présence. Il ira trouver le prêtre, qui sera en fonction à ce moment-là, et lui dira « Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait promis par serment à nos ancêtres de nous donner. C'est pourquoi, ô Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu, tu te prosterneras devant lui pour l'adorer, et ensuite, avec le Lévite et l'immigré qui réside au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'aura accordés à toi et à ta famille. » Il y a des chouettes indications là sur comment donner. Déjà, les prémices, la première part du revenu. Ça avait vraiment un sens pour Israël, qui est un peuple agricole, qui fonctionne avec l'agriculture, que ce soit l'élevage ou la culture. C'est de donner la première partie de la récolte, premier-né des troupeaux. Et dans ces prémices, il y a un geste de confiance. Je donne le début sans être sûr de ce qui arrive derrière, parce que je crois en la fidélité de Dieu. Le début, le plus beau. Et pour nous, je crois que l'invitation demeure. Quelle que soit la somme que j'ai décidé de donner, nous sommes invités à la donner au début, par exemple au début du mois, quand j'ai reçu mon salaire. Si j'ai décidé de donner 5%, donnez les 5 premiers pourcents et non pas les 5 derniers. Lorsque j'ai tout dépensé. C'est toujours la même somme, mais la symbolique est énorme. Une fois que j'ai choisi combien j'ai donné, c'est la première ligne que je mets sur mon budget. Le texte de Deutéronome que j'ai lu montre également une démarche liturgique. C'est un élément du culte que de donner. C'est quelque chose qui se passe au temple, avec les prêtres, quelque chose qu'on fait devant Dieu. Ce n'est pas une simple collecte, une cotisation, c'est une confession de foi. En donnant, je rappelle que je suis dans le pays que Dieu nous a donné, que nous n'avions rien et qu'il nous a placés là. C'est vécu comme de la reconnaissance, comme un élément du culte. Et c'est vécu également dans le partage et la joie. avec l'invitation de se réjouir avec le prêtre et l'immigré, le prêtre qui n'a pas de possession, qui dépend des autres, et l'immigré, celui qui est étranger, sans terre et dont le revenu est limité. L'offrande n'est pas un fardeau pénible. L'offrande, c'est une joie, et une joie qu'on veut partager. Dernière question. Pourquoi? Combien? Comment? À qui? À qui donner? Cette question étonne peut-être. Le panier, la corbeille d'offrande est là. Elle nous attend. À qui donner? C'est facile. L'Église fonctionnant sur des dons, on peut penser que je prêche pour ma paroisse. Mais je crois que le don que Dieu nous demande est plus large que ça. Si on est honnête, quand on lit le Nouveau Testament, l'appel à la générosité, il est très souvent envers les pauvres. Il y a peu d'appels à donner à l'Église. Il y a un appel à prendre soin des dirigeants, prendre soin financièrement du pasteur, qui ne manque de rien, pour pouvoir exercer son ministère sans souci. Et à part ça, les églises avaient peu de besoins. Ils se réunissaient dans des maisons, et de temps en temps, ils faisaient des collectes ponctuelles quand ils voulaient envoyer un missionnaire, soutenir d'autres églises, comme on le voit ici. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les pasteurs sont toujours dépendants de leur communauté. C'est mon cas et c'est l'occasion de vous remercier pour la fidélité dont vous faites preuve à mon égard et à l'égard de ma famille. Mais nos églises ont aussi des bâtiments qui coûtent et puis des projets que nous construisons ensemble, des projets missionnaires, des projets d'évangélisation ou autre chose. Nous construisons un budget avec rigueur, et je crois que c'est une bonne chose de se poser pour savoir comment nous allons gérer l'argent avec sérieux. Donc l'Église a des besoins, les pauvres n'en ont pas moins. À qui donner? C'est à chacun de décider de sa destination en fonction de ses engagements, de ses centres d'intérêt, librement et sans contrainte. Mais j'aimerais quand même souligner une chose. Quand on est membre d'une église, je pense que on s'engage en étant membre à soutenir son projet. Voter un budget, ce n'est pas une formalité administrative. C'est une décision qu'on prend ensemble et que nous voulons assumer ensemble. Quand on décide que notre budget sera de 115 468 euros pour l'année 2016, on décide que nous allons rassembler cette somme. Et donc, nous avons cette responsabilité de passer du vote du budget à la réflexion sur comment nous allons l'exécuter et quelle part je vais prendre dedans. En même temps, quand on donne à l'Église, soyons honnêtes, c'est quelque chose qui nous revient d'une certaine manière. Le pasteur qu'on rémunère s'occupe de nous, plus ou moins bien, aussi bien qu'il peut. Il nous enseigne, nous accompagne, nous conduit. Le bâtiment, nous y sommes abrités. Si nous le voulons accueillant pour les autres, nous en avons aussi de bénéfices. Les différents projets, nous y investissons et l'argent que nous y consacrons nous permet de les faire. Quand on donne pour l'Église, quelque part, ça nous revient. Et il y a quelque chose de beau à donner pour des causes qui ne nous donneront aucun bénéfice, comme la mission au loin, dans des pays où nous n'irons jamais, parrainer un enfant avec le sel, soutenir l'Église persécutée au loin. Il existe de nombreuses possibilités, chrétiennes ou non, décider de votre répartition. C'est à vous de le faire. J'ai connu une famille qui avait fait le choix de donner la dîme, 10%, à l'Église, et qui en plus avait décidé une somme qu'elle mettait de côté tous les mois sur un compte séparé pour pouvoir répondre à des sollicitations qu'elle avait et être généreuse. Voilà, choisissez. Et je vous encourage à le vivre avec fidélité. Donner. Pourquoi ? Combien ? Comment ? À qui ? Voilà des questions auxquelles nous pouvons réfléchir, chacun, individuellement, en couple, peut-être même en famille. Souvenons-nous que ça fait partie de notre témoignage. Nous sommes observés, le monde est étonné de voir que les croyants ont une certaine liberté avec l'argent. Montrons concrètement que pour nous, l'argent n'est partout, n'est pas tout. Ça fait partie de notre témoignage, de ce qui est visible, de ce dont nous pouvons être fiers. Et en particulier, quand le monde voit que les activités de notre Église sont financées. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de nous, mais ils sont obligés de dire oui quand même. Ils y croient. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à vivre cette dimension de notre témoignage. Montrer par nos actes que nous partageons, que nous résistons à la logique du toujours plus, que nous croyons intimement et concrètement que Dieu pourvoit et que nous ne manquerons de rien. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.